Les années incandescentes, cinquième épisode. Paris, le 31 juillet 1895. Mon cher Heinrich, j'ai une très bonne nouvelle. Je suis sain d'esprit. À force de m'entendre dire par des collègues du journal que je suis surmené ou fou, j'ai fini par consulter un psychiatre, Max Nordau. Après lui avoir tout expliqué, il m'a dit « Si vous êtes fou, nous sommes deux, je suis avec vous !» Il a diagnostiqué une faiblesse pulmonaire et cardiaque. Sur un ton doctoral, il me dit « Un prophète doit avoir de bons poumons !» Il est inutile d'inquiéter Mama Cam avec cela. Devrais-je le dire à Julie ? Après tout, non, elle ne m'en aimerait pas davantage. Il me faut te raconter un épisode qui s'est déroulé il y a peu. J'ai rencontré à Paris un professeur d'université du nom de Becker, particulièrement chauvin. Ce Becker est une vraie figure du juif du quartier latin. Il a l'odeur des bouquins et du patriotisme courant. Très sûr de lui, il se mit à réfuter mes idées. Ce faisant, il raconta une plaisanterie sur ce que serait la vie dans l'État juif. Deux juifs se rencontrent. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Je vends des lorgnettes. Et toi ? Je vends aussi des lorgnettes. » À cette illustration magistrale de son argumentation, je répliquais très calmement « Monsieur, ni vous ni moi ne vendons des lorgnettes. » Les Juifs français sont hostiles au projet. Je ne m'attendais pas à autre chose. Leur situation ici est trop bonne pour qu'ils envisagent un changement. Et pourtant, l'affaire Dreyfus n'a-t-elle pas eu lieu à Paris ? Mort aux Juifs ! Criait la foule lorsque les insignes du capitaine Dreyfus furent arrachés de son uniforme. Et depuis lors, « Abat les Juifs !» est devenu un cri de guerre. Il exprime le désir de la grande majorité du peuple en France de condamner un Juif et, à travers lui, tous les Juifs. Où donc ? En France. Dans la France républicaine moderne, civilisée, 100 ans après la Déclaration des droits de l'homme. Ainsi, le principe d'égalité de la Grande Révolution a été révoqué. Et si une nation progressiste et hautement civilisée peut agir de la sorte, que peut-on espérer d'autres nations ? Ton ami de toujours, Théodore. Paris, le 2 août 1895. Ma chère Mama Cam, avec mon papa bien-aimé, vous serez bientôt tous deux fiers de moi. Mon projet avance. Bismarck ne m'a pas répondu. Cependant, j'ai l'intime conviction qu'il me faut continuer. J'ai décidé de regrouper mes idées dans un livre dont je viens de trouver le titre. L'État des Juifs. Les idées font irruption en moi comme un volcan. J'écris en marchant, dans ma chambre, au restaurant, au théâtre. Les détails me viennent tout d'un coup en abondance. Je crois même avoir entendu quelque chose comme un souffle au-dessus de ma tête quand j'écris. J'y travaille tous les jours jusqu'à complet épuisement. Je dois avant tout garder le contrôle de moi-même. La question juive est une question nationale. Les Juifs constituent un peuple un. Ils appartiennent à une même nation. Notre détresse actuelle doit devenir une énergie libératrice pour obtenir un territoire propre nous permettant d'accéder, nous aussi, à la souveraineté de l'État-nation. Une maison où nous serons enfin chez nous. Où nous n'aurons plus à trembler pour savoir si demain l'on nous mettra à la porte. Ou pire, un État garanti par le droit international et non pas des colonies qui s'installeraient de façon rampante en Palestine, comme celle des amants de Sion, vivant sous perfusion des Rothschild. C'est cela, juifs, pas un conte de fées, pas une duperie. On me portera souvent des toasts, et on priera pour moi dans les synagogues, mais aussi dans les églises. Je quitte mon poste de correspondant de presse à Paris, et je viens vous rejoindre à Vienne. J'habiterai avec Julie. Nous verrons bien comment les choses évolueront de ce côté-là. Après tout, les femmes sont aussi le sexe qui, parfois, répare nos chaussettes. Cela me permettra de voir les enfants chaque jour. Le journal me donne la position, enviée, de directeur de la rubrique littéraire. Cette période à Paris termine aujourd'hui un livre de ma vie. Cela en commence un autre. Lequel ? Ton fils qui t'aime, Théodore. Vienne, le 27 novembre 1895. Ma chère Mamakam, comme il est bon de te voir ainsi que mon cher papa si souvent, même si mon travail m'accapare beaucoup. Cela ne m'empêche pas de t'écrire lorsque je ne peux pas passer à la maison. Je voulais te prévenir, si tu croises par hasard le rabbin Gutmann, il est possible qu'il te semble un peu étrange. Je l'ai invité à me rendre visite pour lui exposer mon projet sioniste. En s'installant dans le salon, il est tombé nez à nez avec le sapin de Noël. « Allons, lui ai-je dit, je ne me laisse pas influencer. Mais bon, cela doit-il s'appeler le solstice d'hiver ou le chandelier de Hanouka ?» Je ne suis pas certain qu'il l'ait apprécié. Vienne, le 5 février 1896. Mon cher Heinrich, mon livre va paraître dans quelques jours. Maintenant, il ne reste plus grand-chose de ce qui m'importait auparavant. Je me lance totalement aujourd'hui dans la question juive. Je crois que pour moi, la vie a cessé. L'histoire mondiale a commencé. Ton ami de toujours, Théodore. Inspiré du journal de Théodore Herzl, traduit de l'allemand par Paul Kessler, et de la biographie consacrée par Serge-Alain Rosenblum, sur des musiques originales de Frédéric Schumann et Freddy Mink, un mixage réalisé par Xavier Dreyfus, un visuel conçu par Fabienne Wacknin, l'idée originale du podcast a été développée par Patrice Kemoun.